BFM Radio.
Dimanche, il est 13h et voici votre rendez-vous. Affaire suivante, numéro 294. Ravi de vous retrouver avec mon complice Dominique Rizet.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Soyez les bienvenus. Au sommaire, le profil de Justin P, celui qui a tué une lycéenne et blessé trois autres camarades jeudi à Nantes. Le portrait complexe de ce jeune homme de 16 ans qui a semé la terreur avant d'être neutralisé, arrêté et placé en psychiatrie.
Allez, on les surnomme les papy braqueurs, 8 personnages hauts en couleur qui doivent répondre devant la justice à partir de lundi, demain matin. Pour le braquage et la séquestration de Kim Kardashian, c'était à Paris en 2016. Que risquent-ils ? Qui sont-ils ? Comment ont-ils monté cette opération digne des pieds nickelés ? On verra tout ça avec nos invités en plateau.
Et puis le magistrat Jean-Pierre Gentil, notre invité qui nous livre ses souvenirs, avec cette question : comment juger à hauteur d'homme ? Lui qui a notamment instruit le dossier Paul Touvier et jugé tant d'autres affaires criminelles. Ses réflexions et son regard sur la justice pénale d'aujourd'hui.
Allez, affaire suivante, c'est tout de suite.
En moins de 8 minutes, Justin P a semé la terreur jeudi dans son lycée de Nantes avec un couteau long de 20 cm. Il poignarde à de multiples reprises une camarade qui va décéder. Et quelques instants plus tard, il blesse trois autres lycéens aujourd'hui hors de danger. Que sait-on de ce jeune homme à la personnalité complexe ? D'abord la chronologie des faits avec Pierre-Louis Bousset.
Il est aux alentours de midi lorsque Justin P arrive dans l'établissement où il est scolarisé. Il se rend alors dans les toilettes du premier étage, où il dépose son sac, contenant notamment un pistolet factice et deux couteaux.
Il écrit quelques phrases au mur, l'une d'entre elles étant qu'il souhaitait qu'on lui tranche la gorge. Il se scarifie avec son couteau sur le front.
À 12h15, il envoie à tous les autres élèves de l'établissement un mail, un document de 13 pages qu'il présente comme son manifeste officiel, encore inachevé. À 12h30, il se rend dans une salle de classe, demande si l'un de ses camarades est présent. Les élèves lui répondent que non. Justin P retourne alors aux toilettes et se masque le visage. Il prend l'un de ses couteaux avant de revenir dans la salle où il poignarde mortellement une jeune fille.
Le mis en cause donnera des coups de couteau exclusivement sur cette jeune fille. On est maintenant très informé sur la violence de l'action puisqu'il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime.
Il se dirige ensuite dans la salle d'en face et agresse trois autres élèves. C'est alors qu'un technicien informatique de l'établissement intervient. Il détourne l'attention de l'assaillant et réussit à le bloquer.
Le technicien en informatique parvient à faire en sorte que le mis en cause se retrouve pris dans une sorte de sas duquel le mis en cause ne pouvait plus ressortir.
C'est à 12h38 que les forces de l'ordre arrivent et interpellent le jeune homme qui venait de déposer ses armes. Justin P est mis en garde à vue jusqu'à la fin de la journée avant d'être placé en psychiatrie.
Alors avec Dominique Rizet en plateau, on va accueillir autour de cette table Maître Avril Izine, avocate pénaliste, ex-membre de l'antenne pour mineurs. Johanna Rosenblum, notre consultante pour BFM TV. Et puis Boris Karlamov, évidemment, membre du service police-justice. On va d'abord revenir, Dominique, sur la personnalité et le profil de ce jeune homme Justin P, donc 16 ans. D'abord, qu'est-ce qu'on sait de sa famille, de sa fratrie et de son environnement familial ? C'est peut-être la première chose qu'on va se demander, ce que vont se demander les enquêteurs.
On s'est longuement posé des questions avant d'en savoir un peu plus au moment de la conférence de presse du procureur. Ses parents sont divorcés, ils vivaient avec sa mère, qui prenait soin de lui, qui se préoccupait de son état de santé mentale notamment, puisqu'elle avait demandé à la maison des jeunes de Nantes de le recevoir. Et il avait été reçu 6 fois là-bas, à 6 reprises. On sait qu'il a une sœur de 4e, qui est dans le même collège que lui, et donc qu'il souffre de troubles, qui ont fait d'ailleurs que sa garde à vue a été levée au bout de 8 heures. Il reste aux enquêteurs encore 41 heures de garde à vue. Je crois que c'est ça, oui, 6 heures, 41 heures de garde à vue. Et que toute la question est de savoir maintenant si un jour ce garçon sera accessible à une sanction pénale. Ça veut dire est-ce qu'il sera jugé un jour.
Alors, Maître Avrilizine, qu'est-ce que vous inspire effectivement ce qu'on a pu découvrir au fur et à mesure des heures à partir de jeudi midi et demi? Voilà. Est-ce que c'est un profil auquel vous avez été confronté, vous, de par votre expérience professionnelle?
Heureusement, c'est un profil qui reste très atypique, parce que pour commettre un crime d'une telle sauvagerie, heureusement que c'est quelque chose qui reste très particulier et rare. Néanmoins, dans ma carrière, évidemment, ça fait 25 ans que je suis avocat, j'ai été confrontée à des crimes qui étaient particulièrement violents, notamment, je pense, à un crime où l'assassin avait quand même frappé sa victime de 35 coups de couteau.
Et là, 57.
Et voilà, et justement, et déjà, moi, j'avais été frappée, on avait fait une reconstitution par rapport à la violence et le temps et le déchaînement qu'il faut pour frapper autant de fois sa victime. Là, 57 fois, on se dit, mais là, on n'est plus dans le réel, on est dans une folie. Mais alors, attention, parce que justement, il y a le terme folie générique et il y a le terme de la responsabilité pénale. Évidemment, il va être expertisé psychologiquement, psychiatriquement, pour déterminer est-ce que il y a eu une abolition de son discernement parce que il est reconnu irresponsable pénalement, ou est-ce que simplement il y a une altération de son discernement au moment du crime.
Donc le dilemme, c'est abolition ou altération.
Ou non, même pas, parce qu'on pourrait
tout.
Aussi
ou discernement plein.
Le discernement plein. Reconnaître pleinement conscient de ses actes. Et il y a quand même des arguments qui militent pour le fait qu'il soit reconnu conscient de ses actes et qu'il réponde quand même devant la justice pénale de son crime. C'est que on sait peu de choses, mais on sait néanmoins qu'il y a une forme de préméditation.
Alors,
il a acheté son arme quelques jours auparavant.
Il a
rédigé un texte qu'il a diffusé au préalable. Il a réitéré aussi son intention criminelle.
Maître, est-ce que préméditation et préparation, c'est la même chose? Il s'est préparé. Est-ce qu'il a prémédité?
Alors,
les deux mots sont proches, mais
en principe, quand vous achetez une arme, c'est pas simplement pour l'esthétisme de l'arme, c'est quand même que vous avez quand même l'intention de vous en servir.
Boris Karlamos, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur ce manifeste qu'il envoie, auto-manifeste qu'il envoie à 12h30 à l'ensemble des élèves de l'établissement? Qu'est-ce que ça dit, justement, de sa détermination ou de sa théorisation de l'acte? Il n'y a rien sur l'acte en lui-même.
Sur l'acte en lui-même, il n'y a absolument rien. Ce manifeste, il comporte plusieurs pages. Il a été envoyé aux élèves de cet établissement scolaire par mail via la plateforme intranet de cet établissement scolaire. Et dans ce manifeste, eh bien, il fait référence à son opposition, notamment à la mondialisation. Il y a de nombreux symboles qui sont toujours en cours d'identification par les enquêteurs. Le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, y a fait référence lors de sa conférence de presse. Il indique que l'auteur présumé indique l'avoir rédigé lui-même. La qualité de la prose utilisée peut questionner sur son auteur réel. Donc les enquêteurs, désormais, ils vont s'atteler à savoir si c'est bel et bien lui qui a écrit ces longues lignes, ces longs paragraphes. Qu'est-ce qu'il voulait dire par la diffusion de ce texte? Est-ce qu'il faut y voir une quelconque motivation dans ce texte pour expliquer son passage à l'acte? Ce document, il nous est parvenu au service pour la justice de BFM TV extrêmement rapidement. Oui. Il a suscité énormément d'étonnement au sein de cet établissement scolaire, puisque tous les élèves ont été surpris lorsqu'ils ont ouvert leur boîte mail de voir un tel texte rédigé donc par Justin P, puisqu'il l'a envoyé avec sa propre adresse mail. Donc c'est pour cela que les élèves ont pu l'identifier.
Envoyé à 12h15 et passage à l'acte
à 12h30.
À 12h30. On va prendre la direction de Nantes pour retrouver Marie Roux, qui est l'une des envoyées spéciales de BFM TV là-bas. Marie, l'émotion, on doit le sentir, est encore palpable là-bas. Et puis, il y a cette rentrée qui se prépare. La rentrée demain au sein de ce même établissement, à quoi ça peut ressembler?
Eh bien, une rentrée des classes qui sera sans nul doute chargée en émotions. Ce que l'on peut vous dire ici devant l'établissement Notre-Dame de Toutes Aides, c'est que le temps semble suspendu tout au long du week-end. Des centaines de personnes sont venues apporter des fleurs, des bougies, des mots. Ils sont venus se recueillir devant les grilles de l'établissement en hommage à Lorraine, cette jeune fille de 15 ans qui a perdu la vie. Vous l'avez dit, demain, les élèves encore bouleversés retrouveront les bancs de l'école. Une rentrée qui se fera de manière progressive. intensive. Par exemple, les élèves de 6e sont attendus dès 9h. Ensuite, tous les niveaux suivront demi-heure par demi-heure. Une rentrée des classes échelonnée décidée par la direction pour que chaque classe, chaque élève ait un temps d'écoute. Des temps d'échange sont également prévus avec les professeurs ainsi que les psychologues encore sur place. Enfin, certains élèves ont prévu de venir habiller en blanc encore ce lundi pour rendre hommage à Lorraine, cette jeune fille qui était en classe de seconde. Vous l'aurez compris, une école encore meurtrie par ce qu'il s'est passé, qui va tenter peu à peu de retrouver la sérénité et le chemin de l'apprentissage.
Merci beaucoup Marie Roux en direct de Nantes pour BFM TV. Johanna Rosenblum, de l'importance de cette cellule psychologique qui perdure et qui se met en place et qui est maintenue pour la rentrée demain.
Oui, essentiel, parce que quand on est confronté comme ça à des morts aussi violentes, aussi macabres, et que tout cela est mêlé à un sentiment d'impuissance, parce qu'il faut penser à tous ces élèves qui ont été témoins dans la classe et qui n'ont pas pu s'échapper, plus tous les personnels encadrants, les autres enfants qui ont été confinés et les parents qui attendaient d'avoir des nouvelles de leurs enfants, et ben le trauma agit comme une onde de choc. C'est très important d'avoir une cellule d'urgence médico-psychologique avec des psychologues, mais aussi des médecins et peut-être des personnes qui pourront apporter des informations aux enfants, aux parents, pour les rassurer, tout en disant aux parents qu'il faut rester très attentif à leurs enfants, à leurs adolescents, parce que parfois, dans les premiers temps, c'est vrai qu'on est réconforté de voir que son enfant est de retour, que soi-même, on n'a pas été violenté, agressé, mais la sidération fait qu'on ne ressent pas forcément les premiers symptômes. Et donc, très, très attentif dans les prochaines semaines aux troubles du sommeil, aux phobies scolaires, aux phobies sociales, aux cauchemars, par exemple.
Mais Johanna, la scène qui est décrite par le procureur, d'ailleurs, qui donne beaucoup de détails, et donc cette première salle de classe où va mourir Lorraine, il y a 30 élèves qui sont ici.
Qui assistent.
Donc il la frappe 57 fois, d'abord debout, ensuite couché, il traverse le couloir, il va dans une autre salle de classe, là c'est le cours d'anglais. Il va frapper 3 élèves, les autres ne peuvent pas sortir au hasard. Trois élèves au hasard ne peuvent pas sortir parce que la porte du fond, la deuxième porte d'accès, est fermée. Donc ces jeunes-là ont vu la scène. C'est pas des enfants du collège.
C'est-à-dire qu'ils étaient dans un enfermement psychologique.
Ouais. Aussi. Ah oui, complètement.
Est-ce qu'ils peuvent revenir lundi à l'école normalement? Enfin, normalement non, mais est-ce qu'ils peuvent revenir à l'école lundi?
On vit pas tous de la même manière les événements à caractère traumatique. Il y a des personnes qui vont être complètement sidérées, dissociées, qui ne vont plus pouvoir rien faire pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. D'autres élèves qui vous diront qu'ils ne se souviennent plus de rien, qu'ils ont l'impression d'être comme dans du coton, sentiment de déréalisation. Le psychisme face à ce type de situation fait en sorte de se protéger. Il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place. Donc il y a ceux qui vont vouloir recréer du lien, revenir en cours, qui ont des capacités de résilience certaines, et d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile à gérer. Tout cela est très, très personnel, très individuel. C'est pour ça qu'il faut pouvoir prendre chacun individuellement, être extrêmement à l'écoute et patient, parce que les symptômes n'arrivent pas forcément dans l'immédiat.
Alors autant le procureur, vous l'avez dit, a longuement détaillé les deux scènes, en fait, la scène de crime et puis ensuite les trois agressions au hasard, si je puis dire, autant il a été très prudent sur le mobile, Boris. On en sait peu, finalement. Il y a des pistes d'explication, mais le mobile reste encore incertain.
Oui, puisque l'auteur présumé, Justin P., n'en donne lui-même aucun de mobile. Il n'a aucune explication sur le geste dont il est suspecté d'avoir commis. Aucun mobile susceptible d'être évoqué de façon certaine. Voilà ce qu'a déclaré le procureur lors de la conférence de vendredi. Alors peut-être que depuis, il y a eu des avancées au niveau des investigations et qu'il y a une première ébauche de mobile, mais c'est le flou total pour l'instant. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a commis l'irréparable, une telle atrocité. Il n'y avait pas de forme de harcèlement scolaire, puisqu'on pouvait forcément se poser la question. Il n'a pas été harcelé dans ce collège. Il y a une question notamment sur, on va dire, entre guillemets, le choix de la victime, puisque Lorraine était la seule personne avec qui ce jeune adolescent avait des contacts. En quelque sorte, c'est la seule personne. Sa seule amie.
Alors qu'il était globalement, je crois, très isolé, peu d'amis.
Isolé, et c'est la seule personne qui a eu, on va dire, la sympathie de lui adresser la parole, de lui faire part, de l'écouter du moins. Et c'est cette jeune adolescente qui était la première victime dans ce massacre.
Maître Avrilésine, sa garde à vue va peut-être reprendre. En tout cas, il a déjà fait 48, il a déjà fait 6 heures de garde à vue, 6 ou 7 heures. Comment est-ce qu'on assiste à un gamin? C'est un gosse. Le premier jour, on a dit qu'il avait 15 ans. Le lendemain, on a su qu'il avait 16, mais à peine, il venait de les avoir.
Ça change pas.
Donc, c'est un gamin. Comment est-ce qu'on assiste? Et quand on dit gamin, on pense aussi, bien évidemment, à Lorraine, sa victime qui a 15 ans. On pense d'abord à elle. Comment est-ce qu'on assiste un gamin comme ça en garde à vue?
Déjà un gamin, un adolescent, de toute façon aussi. Et il est responsable, il est à un âge où sa responsabilité pénale peut être tenue. On ne parle pas d'un enfant qui a moins de 13 ans.
Mmh,
donc, déjà, il faut savoir aussi que la garde à vue pour les mineurs et surtout aussi sur les faits criminels, elle est filmée. Et s'il n'a pas d'avocat qui a été...
Ses parents, je crois, peuvent assister?
Alors là, par rapport aux auditions, on essaye quand même de les faire hors la présence des parents.
Okay.
Mais néanmoins, il a assisté de façon obligatoire. Là, c'est pas une option comme pour les adultes, de façon obligatoire.
C'est parce que l'adulte peut dire non, je ne veux pas d'avocat pendant ma garde à vue. Et lui, il est obligé d'en avoir.
Oui. En tant que mineur, vous n'avez pas le choix, même si votre avocat est taisant. Après aussi, entre nous, le rôle de l'avocat en garde à vue, il est assez minime. On a un rôle d'assistance, de vérification, mais de toute façon, c'est pas l'avocat qui va répondre aux interrogations des enquêteurs. Donc, il va avoir à ses côtés un avocat et on va lui expliquer aussi que dans le cadre de sa garde à vue, de toute façon, il y a des droits qui est soit vous pouvez répondre aux questions, soit faire des déclarations, ou alors vous taire. Vous avez aussi le droit de vous taire. Alors, lui, est-ce qu'il va choisir de s'exprimer ou pas? Ou est-ce qu'il gardera ses déclarations pour lorsqu'il va être mis en examen?
Alors, il a un peu parlé visiblement au tout début de sa garde à vue. Nos confrères de Presse Océan, je crois, ont relaté un certain nombre de déclarations. Mais moi, je m'interroge aussi sur le rôle des victimes dans ces cas-là, parce qu'il est placé en psychiatrie. La garde à vue reprendra ou ne reprendra pas. Son discernement sera aboli ou altéré, on ne le sait pas, ou plein et entier.
Pas.
De la difficulté pour les victimes de trouver leur place, Johanna, dans toute cette histoire.
Oui, ce qui est difficile pour les victimes, c'est de donner du sens. Mais
exactement.
Vous voulez que je vous dise qu'il ait un discernement aboli, altéré, ou alors qu'il soit pleinement conscient de ce qu'il fait?
Ça change rien.
Voilà, on ne se reconstruit pas sur un tel drame. Ça va donner des informations. C'est vrai que dans son courrier, dans son manifeste, il parlait de colonisation de l'inconscient, de manipulation cognitive, il parlait du système comme d'une tumeur. Donc, s'il était dans un délire apocalyptique, de persécution, son périple, c'est un périple qui peut être vu pour lui comme un périple rédempteur, salvateur. Ça ne donne aucun sens à des victimes qui ont été exposées, qui ont perdu... une camarade et à des parents qui ont perdu leur enfant.
Mais quand vous dites quand on est victime, on ne se reconstruit pas, on dit souvent aussi que les victimes ont besoin d'un procès pour, je reprends cette expression, pour faire leur deuil,
résilience.
Alors quand il n'y a pas de procès, c'est encore plus dur.
Non, évidemment qu'on peut se reconstruire, mais elles auront toujours à vivre avec.
Oui, on apprend à vivre avec cette douleur, et heureusement, parce que quelles que soient les douleurs que la vie peut nous faire subir, heureusement que on arrive à survivre, voilà. Alors après, plus ou moins bien, mais il y a quand même ce phénomène de résilience. Et c'est vrai que si, quand même, moi je pense, c'est en tant qu'auxiliaire de justice et aussi en tant qu'être humain, pour les victimes, c'est extrêmement important qu'il y ait un procès. Je pense que ce serait absolument insoutenable qu'il ne soit pas jugé, que simplement.
Et à toutes les victimes collatérales,
voilà,
aussi, ceux qui
il faut simplement,
intervenir en
faut simplement l'interner, on va le soigner et là, en plus, c'est particulièrement inquiétant parce que il faudra savoir que un jour, a priori, il ressortira de.
Alors, il y aura un comité d'experts qui se penchera sur son
cas.
Bien sûr.
C'est encore moins encadré que s'il y a une condamnation pénale. Donc, franchement, ce serait absolument insoutenable si on prononçait simplement d'emblée, assez facilement, une irresponsabilité pénale. Ce serait un peu trop facile.
Dominique.
On avait parlé de Romain Dupuis,
ouais.
C'est ça?
De Romain Dupuis à Pau, en 2004, souvenez-vous, c'était un ancien patient de l'hôpital psychiatrique, il était rentré dans cet établissement, il avait tué une aide-soignante, une infirmière, qu'il avait décapité avec un sabre japonais. Il a passé, on a fait quelques recherches, il a passé 18 ans à Cadillac dans cette unité de malades difficiles et aujourd'hui il est toujours hospitalisé à Bordeaux. À Noël, il y a eu une demande pour pouvoir sortir et pouvoir bénéficier de soins à l'extérieur, eh bien ça lui a été refusé. Plus de 20 ans après, puisque c'était en 2004 et qu'on est en 2025, 21 ans après.
Non, mais j'ai envie de dire, ben heureusement, hein, parce que si c'est aussi que les médecins ont estimé qu'il était encore d'une particulière dangerosité.
Exactement.
Alors aussi, j'attire votre attention sur une chose, c'est que quand même les établissements de santé, parce que ce sont quand même des établissements de santé, il y a quand même un problème. C'est il y a beaucoup quand même d'évasion. Beaucoup plus que dans un établissement.
C'est pas une prison. Hein.
Ouais, voilà, justement, c'est pour ça. Et donc, quand vous avez des criminels potentiels, mm-hmm. c'est vrai qu'il faut réfléchir quand même peut-être à des unités
plus sécurisées
okay. pour ces personnes qui sont un danger pour notre société.
Ouais. Merci à tous, merci d'être venus sur ce plateau. Dans un instant, on va vous présenter le gang des papy braqueurs, ceux qui ont ligoté et qui ont braqué Kim Kardashian, la millionnaire, un soir de défilé, c'était en 2016 à Paris. L'un des derniers braquos à l'ancienne, 9 millions d'euros en moins de 10 minutes. Restez avec nous.
BFM Radio.
Le procès de la semaine, le procès des papy braqueurs de Kim Kardashian, ligoté dans une baignoire et volé par une bande de 12 malfaiteurs. Kim Kardashian a eu la peur de sa vie ce soir-là. Qui sont ces braqueurs un peu amateurs? D'abord, un rappel des faits avec Pierre-Louis Bousset.
C'est un séjour à Paris qu'elle n'oubliera jamais. Le soir du 2 octobre 2016, la star de télé-réalité Kim Kardashian est présente lors de la Fashion Week dans la capitale. Après avoir assisté au défilé Givenchy, elle rentre au No Address, un très confidentiel hôtel de luxe situé près de la place de la Madeleine. À 2h du matin, 5 hommes déguisés en agents de police se retrouvent devant l'hôtel particulier. Munis de faux brassards et armes au poing, les malfaiteurs se font ouvrir la porte cochère. Younis Abbas, l'un d'entre eux, raconte sa version des faits dans un livre paru en 2021.
Moi, une fois qu'on est rentré, on a maîtrisé le concierge et ensuite je suis resté en bas pour accueillir la clientèle.
Une partie des braqueurs pénètre dans le duplex qu'occupe Kim Kardashian. Ils la menacent, puis s'emparent de très luxueux bijoux. Laissant la milliardaire ligotée dans sa baignoire, ils enfourchent des vélos pour repartir. En une dizaine de minutes, ils ont mis la main sur l'équivalent de 9 millions d'euros, dont cette bague de fiançailles. Mais dans leur fuite, les voleurs laissent tomber une partie des bijoux sur le trottoir. Un amateurisme qui permet aux enquêteurs de les interpeller 3 mois plus tard. Parmi leurs surnoms, Omar le Vieux ou encore Nérapé. Une bande de papis, alors âgés de 60 à 72 ans, bien connus des services de police. Des truands à l'ancienne, selon un de leurs amis.
C'est un petit peu ces personnages d'avant qui faisaient un peu de, je dirais, en dehors de la loi, mais toujours avec bonne humeur. Il n'y avait rien de tragique.
Sur les 12 hommes renvoyés devant la cour d'assises de Paris, 2 ne seront pas jugés. Le premier pour souci de santé, l'autre en raison de son décès survenu le mois dernier.
Alors avec nous sur ce plateau, un gang de femmes que j'accueille et je m'en réjouis. Patricia Tourancheau, journaliste, autrice de Kim et les papy braqueurs, publié au Seuil. Merci d'être avec nous. Et puis Chloé Arnoux, vous êtes avocate dans ce dossier en défense. Vous défendez l'un des principaux braqueurs, Omar Aït Kedash, celui qu'on appelle le vieux dans ce sujet. D'abord, première question pour vous, quel est le profil de votre client et comment lui décide de monter sur ce coup?
Alors, le profil, en fait, c'est une personne qui est réputée, en tout cas aujourd'hui, depuis que les faits se sont passés, comme ressortant du grand banditisme. Mais aucune documentation n'a jamais réussi à établir ça. Et en fait, c'est plus un fantasme qui est né après les faits, après le coup, que la réalité. Quant à comment il est monté sur ce coup, on essaye dans le dossier de le faire passer pour le cerveau, celui qui aurait tout imaginé. Mais en réalité, c'est juste une affaire qu'on lui a proposée parce qu'il était à cette époque en cavale et qu'il se trouvait en difficulté financière.
Patricia, qui sont ces braqueurs à l'ancienne? Vous pouvez nous les décrire un peu?
Alors, parmi les autres, on a des gens assez âgés déjà, qui ont un gros casier judiciaire.
Quoi?
Pour des vols.
Parce qu'on parlait de leur âge tout à l'heure, ils ont quel âge?
Ils avaient entre 60 et 70, donc ouais. Ils ont 70...
Merci entre le... 60 et 72 à l'époque.
Merci pour le assez âgé.
Voilà.
Merci. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, pardon, hein, j'ai dit 2016, 2018, en présentant l'émission, j'avais pas de lunettes et... J'essaie de tricher un peu.
Et en fait, c'est tous, ils ont tous commis des vols avant, enfin pour la plupart, ou du trafic de stupes. Et voilà, c'est, la plupart sont aussi en Seine-Saint-Denis, donc en petite, enfin en région parisienne. Et dans l'ensemble, c'est plutôt des galériens, les mecs. C'est plutôt des smicards du vol. Hein. C'est pas le haut du spectre du grand banditisme.
Et votre livre est très plaisant et très rigolo parce que vous utilisez le langage de ces braqueurs à l'ancienne. C'est quoi? C'est de la gouaille? C'est de l'argot? Comment est-ce que vous décrivez
c'est
ça?
C'est de l'argot. C'est le langage fleuri des bandits, moi je dis. Parce que voilà, ils s'expriment avec des mots particuliers qui sont assez qui font penser à des films à la Audiard et je voulais restituer justement leur monde à travers leur langage. En revanche, quand il y a le chapitre sur Kim Kardashian et le braquage lui-même, il est en franglais parce qu'il est vu du point de vue de la victime number one, Kim Kardashian, qui n'est pas la seule d'ailleurs, de la victime number two, qui est Abderrahman Watiki, le veilleur de nuit. Et donc, voilà, comme il parle, en gros, Watiki traduit le langage des deux braqueurs dans la chambre, qui apparemment savent pas trop parler anglais.
Et qui cherchent quoi, en fait?
Ils cherchent la ring. Ils disent la ring, c'est la bague de fiançailles offerte par Kanye West.
3,5 millions d'euros, je crois.
C'est ça, c'est un gros diamant. Mm-hmm. Et voilà, un deuxième mot qu'ils disent, c'est monnaie. Voilà, bon, elle a que 1000 euros, donc ils sont pas très contents. Mmh. Et après, ils savent pas trop comment on dit les bijoux, mais ils ont trouvé les crins avec une vingtaine d'autres pièces.
Et c'est né dans l'idée de qui ce braquage? Où est-ce que ça démarre?
Alors ça, je peux pas vous l'expliquer parce que en réalité, mon client qui est en tout cas présenté comme étant le cerveau, a lui-même expliqué pendant l'information judiciaire qu'il avait un commanditaire qui était en fait une personne qu'il avait rencontrée en prison lors d'une de ses précédentes incarcérations et qui lui avait proposé cette affaire en lui expliquant que ce serait quelque chose qui serait, avec évidemment la conscientisation de tout ce que ça peut avoir de plus violent que ce que ça n'est en réalité, un coup non violent où il s'agirait de prendre une bague à la femme d'un rappeur. Avec cette notion un peu de showbiz, mais absolument pas la notion de la notoriété que peut avoir Kim Kardashian. Et quand on revient d'ailleurs sur l'âge de mon client et l'âge des autres personnes qui sont accusées aujourd'hui, même si la plupart contestent les faits, eh bien, on se rend compte que c'est pas le monde des réseaux sociaux, c'est pas le monde des influenceurs. Ouais. Et Instagram, c'était il y a 10 ans, c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui par ailleurs.
Donc, la version d'un commanditaire, ça peut tenir.
Alors, moi, je pense.
Comment est-ce qu'on sait où habite Kim Kardashian? Comment est-ce qu'on sait comment rentre chez elle? Comment est-ce qu'on a tous ces éléments? Il y a bien quelqu'un qui leur a donné.
Bah, il y a certainement quelqu'un qui leur a donné. C'est
donc,
pas des éléments qu'ils ont.
Il y a peut-être effectivement un commanditaire, comme me dit votre client.
Ce qui frappe aussi, c'est le côté amateur. Moi, qui m'intéresse, la fuite en vélo, la fuite à pied, ses pieds nickelés, c'est quoi? C'est le dernier braco à l'ancienne?
Oui, je pense que oui. Avec une équipe pareille, on n'en verra pas d'autres. Et d'ailleurs, c'est la dernière enquête vraiment de grand banditisme par la brigade de répression du banditisme dans les anciens locaux
du
36 Quai des Orfèvres. Après, ils ont déménagé dans le 17e. Mais c'est un mélange, je trouve, d'amateurisme. Ils ont leur côté pieds nickelés où ils les traces partout. D'un autre côté, ils sont quand même pros parce qu'ils ont réussi à la dérober, cette bague et ces bijoux, et à les changer. On n'a plus jamais retrouvé les bijoux. Ils ont été changés à Anvers en Belgique. Donc il y a les deux. Mais l'histoire du vélo, c'est quand même hallucinant parce que...
Racontez-nous ça un peu là.
Quand ils ont préparé leur coup, ils se sont dit on est un an après les attentats de 2015, Bataclan et Charlie Hebdo. Donc Vigipirate, le plan de prévention du terrorisme à son maximum, exact. On peut pas se garer rue Tronchet dans le quartier de la Madeleine. Donc ils se sont dit, on va acheter des vélos d'occasion sur le Bon Coin et les v'là partis à vélo. Ils me disent qu'ils avaient briqué les vélos à l'acide pour pas qu'il y ait leur trace ADN. Sauf que ils ont oublié de gonfler les pneus. Donc Younis Abbas, qui était un guetteur devant l'hôtel, récupère d'abord un sac qu'il devait avoir du matériel compromettant à jeter. Et en fait, il se retrouve avec un sac qui ferme pas, il comprend pas. Son vélo, déjà à l'aller, était crevé. Au retour, c'est encore pire. Le sac se prend dans le guidon.
Bon, et ça,
le
y a,
sac
y a rien
explose
qui va,
par terre. Et en fait, il voit qu'il y a les bijoux, sauf la ring, sauf la bague.
Mais ils arrivent quand même à prendre la fuite malgré tout ça.
Et voilà. Et en emportant dans la voiture, quand même, quand il repart au Rincy chez lui... Il y a un vélo avec une Kangoo d'un client, parce qu'il est garagiste en même temps, donc faussement plaqué. Mm-hmm. Et le sac, il sonne. Et en fait, il fourrage dedans et il s'aperçoit que c'est l'iPhone de Kim Kardashian.
Non.
Qu'est-ce qu'il risque à votre client sur le plan pénal?
Alors, il risque la perpétuité. C'est pour ça qu'effectivement, il y a un côté un petit peu, je dirais, burlesque et comique à ce qui s'est passé. On peut parler de pieds nickelés. Mais c'est quand même des gens qui sont avant tout, non pas des petits papy braqueurs, mais des accusés devant une cour d'assises et qui aujourd'hui encourent la perpétuité. Mmh. Avec évidemment des objectifs pour la défense qui soient bien moindres que ceux-ci, naturellement. Mais c'est en tout cas comme ça que la loi prévoit de faire encourir de telles peines.
Et Kim Kardashian, elle est quand même ligotée, maltraitée, menacée. Et puis, je crois qu'elle est en peignoir et qu'à un moment, il y a un pan de son peignoir qui s'ouvre. Et dans les dépositions, elle explique qu'elle a eu tellement peur et elle a eu peur d'être violée parce qu'elle est dans une espèce de psychose post-attentat 2015. Elle a une certaine appréhension à revenir à Paris. Et il ne faut pas oublier qu'elle, elle a été quand même aussi lourdement traumatisée.
C'est sûr et elle l'a dit mais l'histoire de elle a le vieux qui la tire au bout du lit en fait pour lui attacher
les pieds,
quand le peignoir s'ouvre en fait ils sont fous, il rabat le peignoir et il attache les chevilles, en fait c'est pas du tout l'objet. Donc ça lui a traversé l'esprit à la victime, c'est normal, mais c'était pas du tout l'objet. Et d'ailleurs elle a été traumatisée, c'est sûr, elle pensait que c'était des terroristes venus l'enlever, elle a pensé mourir, etc. Mais en vérité, même s'il y a une arme démilitarisée, disent les papiers braqueurs, elle n'a pas été braquée sur la nuque ou sur la tempe. Vous voyez ce que je veux dire ? L'arme, elle est loin. Il y a pas de
violence. Elle a été ligotée ?
Oui.
Elle a été menacée ?
Voilà, elle a eu le bâillon, elle a eu la peur de sa vie, c'est sûr. Voilà, il faut quand même raison garder. Il y a eu de la violence, mais pas de violence excessive dans ce genre de braquage.
Monique.
Et Kim Kardashian à l'audience, si elle vient.
13 mai, on nous a dit.
Vous avez des questions pour elle?
Moi, j'ai pas particulièrement de questions pour elle. C'est sa place légitime en tant que partie civile d'être là. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est la rencontre qu'il pourrait y avoir entre son récit et le vécu qu'ont pu avoir les auteurs ou en tout cas mon client. Parce qu'il est déjà arrivé un épisode où lorsqu'il était en détention provisoire en 2017, me semble-t-il, il a vu une émission dans laquelle parlait Kim Kardashian et où elle expliquait son trauma et notamment ce qu'elle pensait qu'elle allait vivre, qu'elle pensait qu'on venait la tuer, l'enlever, etc., etc. Et lorsqu'il a pris conscience de tout ça, il a eu le besoin de lui écrire une lettre qu'il lui a adressée, qui est d'ailleurs extrêmement bien écrite avec une calligraphie à l'ancienne, etc. Voilà.
Avec votre aide un peu, non ?
Absolument pas. Je n'étais pas au courant et en fait cette lettre-là, elle a été interceptée parce qu'on ne peut pas écrire comme ça à sa victime.
Et qu'est-ce qu'elle dit cette lettre ?
Alors elle dit que il a pris conscience que la réalité d'un braqueur n'était pas la réalité de sa victime et qu'il lui présente ses plus sincères excuses en espérant que elle et ses enfants pourront se remettre du mal qu'il lui a causé.
C'est plutôt élégant.
C'est complètement élégant et encore une fois je le dis, c'est pas une lettre que j'ai rédigée, c'est une lettre qu'il a écrite dans mon dos, mais en même temps je suis son avocat et son conseil, je suis pas non plus son maître à penser et qui à mon sens témoigne d'une réelle sincérité. Parce que il y a pas véritablement, en tout cas chez mon client, de pensée, de mouvement stratégique. Il est vraiment, je dirais, à la fois dans le fait d'assumer les faits et aujourd'hui de s'en excuser, d'avoir des remords, dans la pureté de ce qu'il peut avoir comme prise de conscience aujourd'hui.
Et est-ce que ce qu'elle dira elle, si elle vient, en parlant de cette lettre, en disant voilà, j'ai reçu cette lettre, j'en tiens compte quoi, ça m'a touché. Est-ce que la cour peut dire bon, on condamne un peu moins ou pas du tout?
Après, l'objet du processus judiciaire, c'est aussi, de toute façon, de faire rencontrer les auteurs et les victimes et d'avoir une sorte de justice un peu restaurative ou réparative.
Qui est un cheminement, en tous les cas.
Voilà, c'est ça. Et une réflexion et quelque part, une rencontre, mais pas une rencontre forcément physique, une rencontre des démarches et des vécus. Donc, je ne sais pas si la Cour pourrait en tenir compte, parce qu'il y a quand même un mois de débat, beaucoup de choses qui vont être dites et débattues.
C'est vrai que c'est long, ce procès, un mois de débat.
Alors, c'est pas du tout habituel pour ce genre de fait. C'est-à-dire que ce genre de fait peut potentiellement, même ça m'est arrivé la semaine dernière, être jugé en comparution immédiate, je vous le dis honnêtement. Mais là, on va pas se plaindre du fait que la justice prenne le temps d'examiner en profondeur les faits et la personnalité des uns et des autres.
Très bien. Merci beaucoup d'être venues toutes les deux sur le plateau. Et on le rappelle, le procès ouvre lundi à 14h30 au tribunal judiciaire de Paris. Tout de suite, c'est l'invité de la semaine.
Merci.
Tout de suite, je vous présente Jean-Pierre Getty, qui est en train de prendre place avec nous, qui est l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle « Juger à hauteur d'homme », publié chez Michalon. Bonjour monsieur, merci d'être venu. Plongez dans vos souvenirs avec vous, plongez dans vos souvenirs de magistrat et votre regard sur cette justice pénale. C'est passionnant, je le disais, c'est foisonnant d'histoires, de dossiers, de destins croisés. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le dossier qui vous habite encore? Quel est le dossier qui vous a le plus habité, avec lequel vous avez le plus vécu?
Bien entendu, j'ai eu une multitude d'affaires à traiter, mais parmi celles-ci, il y en a toujours qui se démarquent forcément. Et en l'occurrence, pour répondre à votre question, l'affaire Touvier a été évidemment une affaire emblématique. Bon, d'une part parce qu'elle mettait en évidence un certain nombre de crimes anciens, et sur la technique d'instruction, puisque j'étais juge d'instruction à ce moment-là, il convenait donc d'instruire avec des éléments qui étaient forcément très 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 en recul.
Et vous racontez que vous instruisez ce dossier avec beaucoup d'énergie, que vous voulez comprendre, que vous voulez vous immerger dans cette histoire, et vous constituez par exemple un petit groupe avec des copains historiens qui vont vous nourrir de cette réflexion.
Alors, c'était un défi, effectivement, parce que instruire sur des crimes anciens, encore, c'est une technique un peu particulière, mais encore faut-il les réintégrer dans le contexte de l'époque. Lequel contexte? Je l'ignorais complètement. L'histoire de Vichy et cette période de la Seconde Guerre mondiale, je l'ignorais totalement. À l'école, je n'en connaissais rien du tout. Donc, il a fallu que je puisse m'informer sur le sujet, car Touvier m'exposait un certain nombre d'éléments auxquels je n'étais pas en capacité de répondre. Donc, pour pouvoir lui opposer effectivement un certain nombre de points de discussion, je me suis entouré d'une équipe d'historiens.
Oui, parce qu'il vous dit, bon, en fait, vous connaissez c'est l'histoire que par les livres, ça m'intéresse pas. Enfin, il vous teste.
Absolument. Donc, j'ai eu l'occasion, à l'occasion d'un colloque, j'ai rencontré le professeur René Raymond, Jean-Pierre Bédarida et
Jean-Pierre Azéma
et François Bédarida, qui étaient des historiens renommés. Et avec eux, environ tous les quatre mois, on se retrouvait à dîner chez Jean-Pierre Azéma et je leur disais, voilà ce que me raconte Touvier. Qu'en pensez-vous? Et à ce moment-là, il me donnait des informations utiles que je pouvais ensuite reprendre dans mes interrogatoires avec Touvier.
Et en amont, il y a un personnage dans l'histoire. Je laisse couper votre portable parce que qui sonne. Quand vous êtes à la télé, tout le monde vous regarde et vous envoie des messages.
Oui, c'est exactement.
On a oublié de vous prévenir, c'est notre faute.
Excusez-moi.
Dans l'histoire, il y a un garçon extraordinaire, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Maty, qui est un chef de la SR de Paris, qui va devenir capitaine. Et c'est un peu votre vieux complice parce qu'il est avec vous sur Touvier. Il est avec vous ensuite sur Aloïs Brunner, la traque d'Aloïs Brunner, de ce que vous avez instruit. Il est avec vous sur Boudarel, le collabo, voilà.
Mais au Vietnam.
Comment? Au Vietnam.
Oui,
au Vietnam. Oui. Et donc, c'est un personnage, comment vous le décririez? Et ça a été quoi votre relation avec lui?
C'est une relation qui s'est créée effectivement à l'occasion de ces différentes affaires que vous évoquez. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il avait une véritable intuition d'enquêteur. C'est-à-dire qu'il savait parfaitement comment aborder un témoin, une victime, un de mes en cause, et l'obtenir le maximum d'informations utiles à la manifestation de la vérité. Et à ce titre-là, je lui ai fait une très grande confiance dans les commissions rogatoires que je lui ai pu lui confier et qu'il a merveilleusement exécuté. Donc, c'est une relation, je ne dis pas amicale, parce que ce serait peut-être un peu excessif, mais en tout cas, de très grande confiance professionnelle.
Alors, pour pouvoir nourrir ce dossier Touvier, vous êtes même allé voir Klaus Barbie en détention. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que j'imagine que c'est quand même des moments assez rares.
Oui, parce que c'est une concomitance dans les faits et les événements de l'époque. Touvier était le responsable de la milice, du deuxième service de la milice, qui était précisément chargé de lutter contre le terrorisme qu'il appelait qui visait les résistants, le marché noir et les juifs. Or, tout le monde sait ce qu'il en est à propos de Barbie dans les actions qu'il a pu mener, notamment dans la région lyonnaise. Et il m'a semblé utile et important, à un moment donné, de savoir s'il y avait un contact qui s'était instauré à l'époque entre Touvier et Barbie. Et c'est ce qui m'a amené à le rencontrer à la prison où il avait été condamné à vie après son procès.
Alors, il est peu bavard, mais il vous dit quand même deux, trois choses.
Alors, Barbie, c'est effectivement quelqu'un qui une personnalité très forte et puis il n'avait pas grand-chose à perdre dans l'interrogatoire que je pouvais mener avec lui. Et de toute façon, il considérait Touvier comme un sous-fifre sans intérêt. Et donc, ce qu'il avait à dire à ce sujet était relativement restreint. Toutefois, j'ai bénéficié du concours d'un collègue qui, lui, avait eu un contact avec Barbie à plusieurs reprises et qui a pu obtenir un certain nombre d'informations et qui ont un peu éclairé le rapport entre Touvier et les forces allemandes à l'époque.
Est-ce que vous avez eu peur de mourir? On parle, vous entrez, il veut pas se taire ce téléphone.
Il a un gros fan club.
Est-ce que donc vous entrez dans la magistrature en 77, le juge, on a regardé avec Pauline, le juge Michel est tué en 81. Et puis il y a eu des menaces. Bon, vous êtes sur des dossiers quand même avec les nazis. Vous n'avez jamais eu peur pour votre vie?
Alors
qu'aujourd'hui on protège les juges.
Il y a deux périodes. Il y a une période où j'étais juge d'instruction, période pendant laquelle j'ai instruit 1850 affaires. Parmi ces 1850 affaires, effectivement, il y avait un certain nombre d'individus pour le moins perturbés.
Voilà.
Or, c'est ces individus-là que je redoutais le plus. C'est-à-dire quelqu'un qui, par son comportement, pouvait, à la sortie du palais de justice, derrière un platane, m'attendre et puis me faire un mauvais sort. Heureusement, ça ne s'est jamais produit. La seconde chose, c'est dans le cadre de mes activités de président de cour d'assises, où j'ai instruit présidé 450 procès, dont des procès de terrorisme. Mmh. Alors, je bénéficiais durant ces procès d'une protection policière avec un garde du corps et puis un chauffeur. Je n'ai jamais eu de menace directe et que par conséquent, toutes les affaires que j'ai pu être amené à traiter se sont déroulées dans des conditions tout à fait satisfaisantes.
C'est un ouvrage à dimension humaine parce que vous dites effectivement juger à hauteur d'homme. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle qualité faut-il pour être un bon juge aujourd'hui? Vous racontez notamment dans votre parcours une femme qui a été victime de violence, qui vous a demandé d'expliquer à sa petite fille son parcours personnel. Et là, vous dites, j'ai peut-être un peu débordé, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai trouvé les mots. Est-ce que c'est ça les qualités? Trouver les bons mots, trouver les mots justes?
Absolument. Le métier de magistrat instructeur, de magistrat pénaliste, parce qu'en définitive, moi je n'ai été qu'un magistrat pénaliste. D'ailleurs, je dis un peu en forme de boutade, j'ai passé 40 ans de ma vie à poser des questions. Donc, savoir trouver les mots, c'est quelque chose qui est essentiel, car c'est de la sorte que s'instaure un climat de confiance, que ça soit d'ailleurs avec les mises en cause, les accusés ou les victimes et les témoins. Donc c'est vraiment un exercice essentiel que d'avoir la possibilité de créer ce lien à travers la parole qui peut s'instaurer au cours de ces différentes activités.
Vous n'aimiez pas trop les journalistes, c'était pas trop votre truc. Moi, j'ai travaillé sur Paul Touvier, sur Alois Brunner, je suis parti avec Beat Klarsfeld en Syrie. On n'avait jamais rien de vous. On n'avait jamais de, pas même un entretien, pas même un rendez-vous. Et vous dites dans votre livre, on est tombé là-dessus avec Pauline, vous dites, un jour, je me suis servi des journalistes. Un jour, j'ai, vous pouvez nous raconter cette histoire?
Qui, si vous acceptez de le dire, et comment?
Monsieur le juge, vous allez répondre.
C'est nous qui posons les questions aujourd'hui.
Oui, vous êtes en garde à vue.
Je vais pas me défiler. C'est dans l'affaire Touvier que je me suis, là encore, servi des journalistes.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Particulièrement. C'est-à-dire que, au démarrage de l'affaire Touvier, je n'avais rien dans le dossier comme élément de preuve, comme des éléments de personnalité. Et qu'en revanche, il y avait des journalistes qui, eux, avaient déjà travaillé sur le sujet et qui possédaient toute une série de documents, d'éléments, d'orientations possibles pour enquêter et qui m'ont fourni au démarrage véritablement une matière que je pouvais exploiter.
Donc, ils vous ont été utiles? Et ensuite, ils vous ont demandé autre chose. Il y a deux journalistes du Canard Enchaîné qui vous ont demandé...
Alors, ça, c'est la deuxième chose. Il s'est trouvé que... dans l'affaire Touvier, on le recherchait depuis 45 ans.
C'est vrai, il était en cavale.
Il était en cavale. Mmh. Et il s'est trouvé à un moment donné qu'on s'est intéressé à une association qui s'appelait les Chevaliers de Notre-Dame. Une association qui a pour objet de porter secours et aide à des personnalités persécutées, entre guillemets, à la fin de la Seconde Guerre mondiale en raison de leurs activités durant cette guerre. Et ces chevaliers, cette association, était localisée à Montmartre, près du Sacré-Cœur. Il se trouve que le Canard Enchaîné avait enquêté sur cette association.
Donc, ils étaient en train de faire la connexion.
Absolument. Okay. Donc, je vois arriver un matin Louis-Marie Auro et Hervé Liffranc du Canard Enchaîné qui me disent, monsieur le juge, voilà, je crois qu'on a des informations qui seraient susceptibles de vous intéresser. On va publier un article dans le Canard la semaine prochaine. Et ça pourrait peut-être déclencher quelque chose, des réactions. Je leur dis, mais c'est très bien, mais si vous le publiez la semaine prochaine, moi je suis pas prêt, il faut que je mette en place un dispositif.
Pour l'interpellation.
Et à ce moment-là...
Des écoutes téléphoniques,
des écoutes
par
téléphoniques.
Exemple.
Hein, et à ce moment-là, je pourrais éventuellement obtenir des informations. Ils ont accepté de différer la publication de leur article, et lorsque celui-ci est apparu, effectivement, dans les écoutes téléphoniques qu'on avait mises en place, il y a des individus qui se sont exprimés en disant « Notre ami Paul ne va pas être content ».
Et ceci aboutit donc à l'arrestation de Paul Touvier à Nice,
absolument.
Après 45 ans de cavale, en pyjama.
Absolument, oui. Donc ça s'est déclenché extrêmement rapidement ensuite pour l'interpellation de Touvier.
Au moment de l'interpellation de Touvier, je lis dans votre livre que vous êtes déçu quand l'arrêt est rendu parce que vous n'êtes pas suivi surtout dans le renvoi de la cour d'assises. Vous êtes soulagé quand il est condamné à la réclusion à perpétuité. Et vous êtes questionnant quand il meurt en détention. Et vous pensez à ses deux enfants, aux deux enfants de Paul
Pierre
Touvier, qui ont été un petit peu, qui ont grandi un peu dans la peur de l'arrestation finalement.
Ce sont des enfants qui ont été sacrifiés à la cause de leur père. Je les ai entendus dans le cadre de la procédure que je menais, et notamment le fils de Paul Touvier m'a beaucoup touché, car il a complètement obéré sa vie aux intérêts de son père.
Dans l'ombre de son
père. Et il a vécu dans un grenier, à ne pas pouvoir sortir, il a fait des études sans avoir d'amis à côté, et il n'a pas pu réaliser la vie professionnelle qu'il souhaitait. Et notamment, il souhaitait pouvoir diriger une scierie. C'était c'est à ce moment-là qu'il se met à pleurer.
Les institutions catholiques ont protégé Paul Touvier plus, l'ont hébergé dans des... Voilà, il était catholique, il était croyant, ça a duré pas les 45 ans de sa cavale, mais une bonne partie, au moins une vingtaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Xavier Dupont de Ligonnès, qui était chrétien, croyant, pourrait être caché dans un endroit comme ça? Est-ce que ça vous paraîtrait totalement invraisemblable ou farfelu?
Tout est possible.
Votre conviction.
Tout est possible.
Mort ou vivant.
Mort ou vivant. Mais tout est envisageable. J'ai découvert à cette occasion la force des réseaux chrétiens catholiques. Ouais. Je disais également un peu sous forme là encore de boutade. Avec Touvier, on aurait pu écrire le guide Michelin des monastères. Hein. Il les a quasiment tous faits. Il a été hébergé en permanence à droite et à gauche, en étant accueilli à bras ouverts. Donc on peut envisager toutes les possibilités, notamment dans la situation que vous évoquez.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Getty. Est-ce que vous pouvez remontrer le livre Dominique de Jean-Pierre Getty, jugé à hauteur d'homme? Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci
plaisir.
À tous de nous
Bonne
avoir
journée,
suivi.
Au revoir.
Dimanche prochain, vous retrouvez Ronald Guintrange. Et nous, on s'éclipse, on se retrouve tous très vite ici sur BFM TV. Et tout de suite, c'est l'après-midi info avec Benjamin Dupont.
Merci Pauline.